Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, en compagnie d'Aline Thomazin et de Jean-François Ladjé pour une nouvelle chronique du Pays Toulousain.
Bonjour aux auditeurs
et auditrices, nous allons continuer à consacrer ces chroniques. Nous étions au 6e siècle, nous avons un peu évoqué cette population et cette façon de vivre dans la ville avec un habitat qui se clairsème, oui, on peut dire.
Oui. Voilà.
Et on va continuer à décrire un peu cette ville au 6e siècle, gros bourg qui peut-être est très relâché dans des remparts qui sont toujours là, peut-être, qui subsistent. C'est un peu la question qui va nous occuper aujourd'hui, un peu les contours de cette cité. Alors, est-ce qu'elle flotte dans un habit trop large ?
Les archéologues n'ont pas fouillé toute la ville, bien évidemment, sinon cela supposerait qu'elle fût détruite.
Éventrée complètement.
Voilà, ou éventrée, bon, ce qui n'a pas été le cas, et tant mieux. Mais ils ont quand même fouillé en suffisamment de lieux de la ville, notamment avec des chantiers de parking de métro, c'est-à-dire les Carmes, Esquirol, Saint-Étienne, l'Arrêt, bon. De manière à quand même avoir quelques indices qui pourraient répondre à ta question, Sébastien. C'est-à-dire que, et c'est un phénomène qu'on retrouve partout, donc Toulouse n'y a pas échappé. Si ce n'est que la particularité de Toulouse, on l'a dit et redit, c'est cet immense rempart de 90 hectares hein, qui, lui, ne disparaît pas. S'il ne disparaît pas, ça veut dire que les Francs sont suffisamment nombreux, en tous les cas en termes de garnison, et que la population qui vit là est quand même suffisamment nombreuse pour l'entretenir. Il faut quand même du monde pour entretenir ça. Mais pour autant, on l'a dit, la population est nettement moins nombreuse. Qui dit population moins nombreuse, dit un habitat qui s'est rétracté. Et alors là, j'avance.
On est intramuros, ouais. Là.
On est intramuros, oui, hein, oui. On est bien d'accord qu'on est dans les 90 hectares de la, voilà. de la cité fortifiée. Fortifié sous Auguste et Tibère au 1er siècle. Donc là, on est 5 siècles après, donc le rempart est toujours là. Mais il n'est pas du tout sûr que le damier, vous savez, le plan orthogonal, oui, gallo-romain, soit aussi étendu qu'il ne l'était même encore sous les Visigoths.
Ou aussi net.
Aussi net.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est-à-dire que je l'ai dit la fois d'avant, il y a déjà des rues qui sont devenues, qui ressemblent plus à des chemins qu'à des rues. Et avec les fouilles archéologiques, on peut peut-être avancer un périmètre hein, d'une vingtaine d'hectares. Je dis une vingtaine pour être très flou,
oui,
mais c'est un ordre de grandeur.
Ce qui est très en retrait.
Ce qui est très en retrait, même si la ville gallo-romaine et visigothique n'atteignait pas forcément les remparts, hein, il y avait des espaces vacants. Là, les espaces vacants sont sans doute plus importants. Et des endroits un peu urbains, c'est-à-dire un paysage urbain, urbain est peut-être un bien grand mot, en effet. Tu disais un habitat clairsemé. Probablement de l'habitat près du pont, dont on ne sait pas trop, ce pont aqueduc romain, ce qu'il en reste,
oui,
réellement.
Oui.
Là, les archéologues n'ont pas d'indices, on ne peut faire que des hypothèses. Voilà, qu'il fallait quand même pouvoir aller en Gascogne à pied sec. Donc voilà, probablement. Donc le pont, l'ancien forum, qui n'est plus debout, mais qui sert peut-être encore de marché.
Pardon, oui, d'interrompre, mais justement, oui, il y avait de grands édifices,
oui,
antiques.
Et oui, les grands
Est-ce qu'ils subsistent ? Parce que là, on vient de parler,
ouais,
de l'habitat,
oui,
et la ville, elle était,
ouais,
quand même ponctuée d'installations.
Ce paysage urbain est probablement beaucoup moins monumental qu'il ne,
ouais,
l'était.
Donc ces monuments disparaissent.
Ouais, c'est-à-dire que déjà, on avait vu qu'avec l'édit de Théodose en 380, destruction des temples. Sauf peut-être un peu exception, mais surtout, enfin voilà, donc même sous les Visigoths, dont les grands temples, celui du Forum, celui qui était quartier Saint-Étienne, ceux-là sont par terre, ils n'existent plus. Les grands monuments comme le théâtre qui était place du Pont-Neuf, tout ça n'existe plus. On a vu que la Dorade a peut-être récupéré un bâtiment, un monument des eaux, quelque chose comme ça, romain, pour en faire une église sous les Visigoths, les Francs la reprennent. Mais ils ne construisent rien de monumental. On ne sait même pas, voilà, s'ils comptent un conte nommé dans le roi vivait toujours au même endroit, ou est-ce qu'il avait vraiment un endroit avec la garnison très, très modeste. Voilà. Mais pour en revenir donc à ce qui pourrait être la vingtaine d'hectares habités, on peut dire, urbanisés peut-être, voilà, peut-être près du Pont Vieux, près d'anciens forums où était un marché, et puis il n'y avait peut-être même pas de continuité vraiment urbaine avec d'autres pôles comme justement la maison de l'évêque, hein, et la première cathédrale à Saint-Étienne, avec un pôle autour de Saint-Pierre-des-Cuisines, autour de Saint-Cernin, on trouve surtout les fours à chaud, bon, voilà, mais du coup, on dirait aujourd'hui que c'est du rurbain, quoi, entre guillemets.
Oui, oui.
Du rurbain, c'est-à-dire oui. Quasiment de la campagne, de la maison isolée sur la parcelle. On trouve dans quelques endroits, notamment près de l'ancien forum, c'est-à-dire place Esquirol, quand même des rues alignées, c'est-à-dire avec des maisons en torchis et structures de bois qui sont quand même plus ou moins alignées. Elles ne sont pas totalement isolées. Donc il peut y avoir voilà, un peu d'urbain dans la partie très centrale de la ville. En gros, on va dire, aujourd'hui, pour se repérer, Dorade, Augustin, d'Alba de Carme. Quoi. Voilà. Au-delà, on voit bien après, on le voit dans la morphogenèse de la ville médiévale, hein, qu'il y a des rues qui sont beaucoup plus sinueuses, qui partent de biais. Donc la structure antique s'efface. Et d'ailleurs, on en reparlera, elle est déjà un peu plus en profondeur. Ça peut affleurer à certains endroits, il peut y avoir des bouts de murs, mais déjà, les francs, ayant quand même, à un moment donné, on l'avait dit il y a quelque temps, il y a eu des incendies, il y a des traces d'incendies. Enfin, le départ des Visigoths ne s'est pas passé de manière extrêmement...
Oui.
Voilà. Donc, forcément, il y a déjà des remblais, il y a déjà des... Et puis le pan de bois et le torchis, s'il n'est pas entretenu, 20 ans après, ça se délite, ça retourne à la terre, dont le sol remonte.
Oui, alors Jean-François, est-ce qu'il n'y a pas quand même des monuments qui existaient que nous voyons encore aujourd'hui, ou nous voyons aujourd'hui des monuments qui ont été un petit peu transformés, mais qui étaient là, qui ont été implantés déjà.
Oui, oui.
Le Aline. Fameux palais royal en particulier.
Alors ce fameux palais royal visigoth, celui-là, les archéologues pensent qu'il a pu être occupé jusqu'au milieu du VIe siècle, c'est-à-dire une cinquantaine d'années.
On rappelle peut-être pour nos auditeurs la situation.
Oui, donc place de Bologne, c'est-à-dire entre la place Saint-Pierre et le Conservatoire régional de musique, le site de l'ancien hôpital Larrey. Voilà.
Et jusqu'à Toulouse School of Economics, on ne sait pas.
Ah non, alors non, là, le palais, il était côté intérieur au mur.
D'accord, intramuros.
Côté extérieur. On va en reparler. Il y avait l'église qui est aujourd'hui Saint-Pierre-des-Cuisines. Et les Visigoths avaient à côté un grand monument funéraire, etc. Et donc, avec effectivement quelque chose qui semble un quartier royal. Et curieusement, mais pas tant que ça, extramuros, donc au pied des murs. C'est-à-dire ce que tu dis.
Oui, comme Saint-Pierre-des-Cuisines d'ailleurs.
Voilà, comme Saint-Pierre-des-Cuisines. Les Francs. Vers 550, on ne sait pas pourquoi, ils détruisent l'ancien palais Visigoth. Alors, est-ce que le comte s'installe ailleurs? On ne sait pas. Par contre, ils ne détruisent pas Saint-Pierre-des-Cuisines. Voilà. Donc, le palais disparaît, intramuros, mais...
Parce qu'il y avait un usage funéraire, peut-être?
Tout à fait, voilà. Ouais. Saint-Pierre reste, c'est un monument qui a été très, très étudié par Guy Tricaze et le regretté Jean-Luc Boudartchouk, qui montre d'ailleurs une évolution, c'est-à-dire que ce qui était vraiment une église liée au pouvoir visigoth, sous les Francs, en tous les cas, en première partie, je dis partie parce qu'on ne sait même pas le dater, en fait, Saint-Pierre est devenu une église cémétériale, mais utilisée par la population. Et puis, il voit dans les fouilles de l'église la mise en place de tombes très soignées, avec de grandes dalles de pierre, au devant de l'abside. C'est-à-dire que, en termes d'usage, cette église semble changer de destination.
Oui, c'est important. Oui.
Alors, destination pour qui ? pour un groupe d'individus, on ne sait pas trop. Mais quand même, ils nous livrent un indice qui est très intéressant. Je les cite là, parce qu'ils disent « L'église change de statut pendant le Moyen-Âge, à une date que l'on ne peut préciser. La basilique destinée à une partie de la communauté chrétienne du lieu. Elle devient donc au milieu du XIe siècle la propriété du comte de Toulouse, Ponce, qui la donne à l'abbaye de Moissac. Mais ça veut dire que sous les Mérovingiens ou sous les Carolingiens, elle reprend un statut comtal, ducal, on ne sait pas trop, mais en tous les cas, elle rechange de statut puisque au XIe siècle, c'est la propriété du comte. Voilà. Mais ça, les archéologues n'ont pas suffisamment d'indices pour savoir si elle redevient une église avec un statut privilégié sous les Mérovingiens ou sous les Carolingiens. Après, pour les autres bâtiments,
et Saint-Cernin.
Saint-Cernin, c'est le Saint-Cernin des années 400.
Oui.
Voilà, pas de changement. Bon, là encore, Kitry Kaz et Daniel Kaz, là, dans leur livre magnifique, là, édité en 2008, en font une historique vraiment extraordinaire, mais on voit que ça ne bouge pas. À Saint-Étienne, on ne sait pas trop. Alors peut-être que les fouilles archéologiques qui sont en cours ou en cours d'achèvement nous éclaireront. Et puis,
Le pont Aqueduc. On va peut-être terminer.
Voilà, on termine avec le pont Aqueduc. Mais c'est vrai que ce pont Aqueduc, ben là, malheureusement, les archéologues, le sol de la Garonne a été tellement chamboulé, je dirais vulgairement, qu'on ne sait même pas dire si le pont vieux médiéval.
Ah
il
oui,
est vraiment
repris,
assis sur les piles ou sur la fondation des piles du pont aqueduc romain et gallo-romain, ou s'il a pu se décaler un peu. C'est-à-dire que là, on ne sait pas. On peut juste supposer que, vu l'enjeu des relations entre rive droite et rive gauche, c'est-à-dire territorialement vers la Gascogne, on peut supposer qu'il y avait un passage. Est-ce que ce pont était en ruine, mais qu'ils arrivaient quand même à le faire fonctionner? On ne sait pas. Voilà. Aline, je ne peux pas...
L'archéologie a des limites bien compréhensibles.
Oui, la Garonne est quand même la plus forte.
On en reparlera.
C'est elle qui gagne à l'arrivée.
La prochaine émission. Merci Jean-François.